avec tous les compagnies. Bon, PLM par-ci, PLM par-là. On a le droit d'exister un petit peu ou pas?
RMC Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh non, de Dieu, bordel de merde, que c'est bon. Bordel.
Nicolas Villas.
Soyez les bienvenus dans l'After. C'est parti pour deux heures de bonheur, bien entendu, avec ce soir, eh bien, les affiches de Ligue 1 de la soirée. Je vous rappelle que ça vient de se terminer entre Angers et Monaco, 2-2, 2-2 entre Reims et Amiens. Supporters de ces équipes, on vous attend au 32-16. Et puis cet après-midi, le PSG s'est imposé 2-1 à Caen avec un doublé de Mbappé. Il n'aura pas payé son resto au joueur de Caen, du coup, Roland Courbis. Le PSG, qui vous le savez, mercredi aura son 8e de finale. Retour de Ligue des Champions face à Manchester United. On sera avec Julien Laurence dans quelques instants également pour voir ce qu'a fait Manchester United aujourd'hui. On écoutera Thomas Tuchel. Alors qu'il y a une réflexion assez intéressante sur la façon dont il faut aborder ce match face à United et qui a encore bien en mémoire la remontada subie par le Paris Saint-Germain face au Barça il y a quelques saisons de cela. Et puis on reviendra aussi sur les autres affiches de cette soirée samedi très chargée. Il y a le Classico en Espagne entre le Real et le Barça, il y a le Classico au Portugal entre le Porto et le Benfica, il y a également des affiches en Allemagne, il y a Gladbach qui a pris une fessée face au Bayern aussi, ça joue entre la Lazio et la Roma aussi. Avec nous ce soir, Prince Ali Bellarbia, bonsoir.
Salut Nicolas.
Ça va Ali ?
Très bien.
Jonathan Macardy est avec nous, salut Jonathan.
Salut les amis.
Comment il va?
Toujours très bien.
Tout va bien?
Ah bah on est chaud hein, ce soir UFC 235 sur RMC Sport 4. John Jones contre Anthony Smith, ouais. Tyrone Woodley, Kamaru Usman et les grands débuts de Ben Askren à l'UFC face à Robbie Lawler.
Ouais, quand on disait qu'il y avait...
20 assuré Robbie Lawler.
Ouais bien sûr, quand on disait qu'il y avait du lourd ce soir.
C'est sur nos chaînes.
Voilà, non mais c'est bien. Simone Rovera aussi est sur nos chaînes. Ça va, Simone?
Bah, ça va, ça va. Ça va bien pour la Lazio, ça va très mal pour la Roma. Parce que c'est les deuxièmes buts de la Lazio qui viennent de tomber avec un pénalty de Ciro Immobile rentré en jeu depuis quelques minutes. Faute de Fazio sur Correa et pénalty transformé par l'attaquant de la Lazio. Donc, 70 minutes passées de quelques secondes et 2-0 pour la Lazio face à la Roma dans ce derby très bouillant.
Et bien on en profite pour faire un tour des lives, voir ce qui se passe également entre le Real et le Barça, 26e journée de Ligue 1. On rappelle que le Barça, on a claqué 3 face au Real cette semaine en Coupe du Roi. Angie Loata suit le Classico pour nous. Salut Angie.
Allez, je me fais un petit plaisir Nico. Hola chicos. Attends, il n'y a pas de raison quand même hein. Je commente le Classico, je me fais un hola chicos. Non, c'est, pour l'instant un but à zéro toujours hein, pour le Barça. Un but qui est intervenu à la 26e minute de jeu grâce à Rakitic. Un super petit ballon piqué par-dessus Thibaut Courtois. Depuis, le Barça gère plutôt bien dans ce match. Le Real tente de réagir, mais à l'image par exemple de Vinicius, il y a quelques instants, eh bien les Madrilènes ont beaucoup de mal à être décisifs dans le dernier geste. Il s'est offert tout à l'heure presque un face-à-face. Il était dans la surface de réparation, il a frappé. Et il y a toujours un abdomen, un coude, un genou qui traîne du côté barcelonais pour empêcher les Madrilènes de marquer. Un but à zéro, 63 minutes de jeu. C'est presque assez équilibré dans le jeu, mais au tableau d'affichage, c'est le Barça qui est devant grâce à Rakitic.
Il y a également du rugby ce soir, 18e journée du Top 14. Lyon face à Castres, Edouard Jay qui est au Matmut Stadium de Gerland. Salut Doudou.
Salut Nico, salut Ali.
Il s'appelle
salut.
Comme ça le Matmut Stadium de
Gerland. Salut. Oui, oui, exactement. Ouais. Salut Jonathan aussi. Oui, oui.
Salut.
Salut. Il y a le groupe Amas Stadium d'un côté. Et le Matmut Stadium de l'autre. Voilà, on s'assure.
Ah ouais, on
s'assure du naming avec des groupes d'assurance ici à Lyon. Et pour l'instant, l'équipe qui reçoit à domicile, d'habitude, elle avait l'habitude de gagner à la maison. Hein, pour reprendre ta formule. Et ben là, l'équipe à domicile qui joue à la maison, elle est en train de perdre la raison, tout simplement, en train de...
Ça arrive,
et ce serait la première fois de la saison. Et pour l'instant, Castres est en train, mène depuis le début de la rencontre et continue de mener. Nous en sommes à l'heure de jeu, il reste 20 minutes, 5 points d'avance, 12 pour le Loup, 17 pour le Castres Olympique, le Loup qui a peut-être manqué, à un moment donné, le coach, tout simplement, parce qu'ils étaient même avec deux joueurs de plus, il y avait deux cartons jaunes à un moment donné. Pendant cette période, eh bien, les hommes de Pierre Mignoni n'ont pas plus réduit l'écart plus que ça. Et donc, pour l'instant, c'est toujours le champion de France qui est en passe de réussir une belle performance ici. 17-12, nous en sommes à l'heure de jeu.
Et c'est la demi-heure de jeu dans le Classico au Portugal entre le FC Porto et le Benfica. Porto qui a marqué le premier grâce à Adrien. Égalisation de João Félix, la pépite, on en parlait d'ailleurs.
C'est lui, d'ailleurs.
Il a tapé le record de Chalana d'il y a 41 ans. Il avait claqué 8 buts sur une saison. C'était le plus jeune joueur de l'histoire du Benfica à avoir atteint les 8 buts sur une saison. Il en est à 9 maintenant, João Félix.
Rappelle-nous son âge.
19 ans. Clause libératoire, 120 millions d'euros. Ouais, c'est pas mal.
Allez les gars, on débute cet after par le plus important. Et le plus important, c'est les 3 points. Bien.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Bah tiens, débute Jonathan, tes 3 points ce soir.
Eh ben écoute, premier point, c'est Mbappé. C'est Mbappé qui encore met son doublé. Il pète tous les records. Il est énorme à chaque fois, même s'il loupe des choses. Au final, tu vois, j'ai l'impression qu'il est pas dans une si bonne période que ça, mais il claque des doublés à chaque match. Donc ça veut dire à quel point ce joueur est énorme. Le deuxième point, c'est qu'on a vécu une belle soirée de Ligue 1 avec les deux matchs nuls 2-2. On a vu des buts, on a vu du jeu, on a vu des propositions. Et franchement, quand on voit des matchs comme ça, ça fait plaisir. Troisième point, c'est l'Olympique de Marseille contre Saint-Etienne. Et je pense que ça va vraiment être un match tournant pour l'OM. Je pense que demain, on va savoir quelles peuvent être les ambitions de l'OM pour la fin de la saison. Donc, assez excité pour le match de demain soir.
Tes 3 points, Ali.
Très beau retour, des buts. Ça fait plaisir pour le samedi soir. Donc, on pourra en parler. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième point, on va parler de ce Real Barça. Barça, quand même, toujours au-dessus. Même si le match n'est pas terminé, mais en laissant au-dessus techniquement. Beaucoup plus sûr. Et troisième point, je voudrais qu'on se focalise sur cette Coupe du Monde 2019 féminine, qui est très importante, je veux dire, pour la population féminine sportive, et je suis avec eux.
Avec elle, du coup.
Avec elle, ouais. Avec elle, ouais. On m'a dit un footballeur. On ne dit pas footballeuse.
Je vous donne mes 3 points également. Et ben Monaco, moi je l'ai kiffé ce Angers Monaco. Ouais. Alors je l'ai kiffé. C'est vrai que Monaco, Jardine n'est toujours pas perdu depuis qu'il est revenu du côté de Monaco. Mais oui, il y a surtout un joueur moi que j'aime beaucoup et que j'avais connu en national. Bah c'est Flavien Tay. Moi je l'avais connu avec Château en national. C'est un vrai bon petit joueur.
Ah tu dis ça parce que c'est Pierrot son agent.
Ah, je le connaissais même avant. mais vraiment un vrai bon petit joueur. Mon deuxième point c'est Lewandowski. On n'en parle plus beaucoup de Lewandowski. Tout à l'heure Lorto nous l'expliquera. David Lortolari. Mais aujourd'hui il a égalé un record. C'est devenu l'étranger ayant marqué le plus de buts dans l'histoire de la Bundesliga. Il a claqué un doublé lors de la victoire du Bayern 5-1 face à Gladbach cet après-midi. Ouais, gros match.
Démonstration, quoi.
Et mon troisième point, c'est le match qui est en cours au Portugal. Mais il y a plein d'affiches hyper sexy. Et hier, Alex de Castro nous en parlait en ce samedi. Mais sportivement, ce Porto-Benfica, c'est vraiment le match le plus important. Ouais. Pour l'instant, il y a un point d'écart entre les deux. Et là, il y a toujours un partout entre Porto et le Benfica.
C'est une journée psychopathe aujourd'hui, hein.
Ouais, franchement, c'est
comme
dur.
On en avait parlé hier, c'est vraiment une journée de malade mentale.
C'est souvent, ça arrive au fin février, début mars.
Ouais, c'est clair. Et en plus, l'UFC ce soir. Qu'est-ce qu'on demande?
Ah ouais, vraiment.
Bah, là, de la Dio, hein. Roma.
Ouais.
Pas mal.
Faut pas dire ça aux supporters de la Roma.
Ouais, ça, c'est clair.
Peut-être même pas Javi Pastore qui est rentré en jeu. Il a raté une occasion énorme et quelques minutes plus tard, la Lazio a marqué le deuxième. Donc,
on t'aime pas trop parler de la Roma en ce moment, hein.
On va voir mercredi soir.
Aïe.
Eh bah tiens, mercredi soir, si tu parles de la Ligue des Champions face à Porto pour la Roma. Eh bah ouais, mais mercredi soir, J-4 en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Aussi entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain à Caen cet après-midi. Ninga qui a marqué le premier pour les Normands. Et puis doublé de Mbappé, vous le disiez il y a quelques instants aussi. Voilà le PSG. Alors, Tourelle a beaucoup fait tourner d'ailleurs.
Oui, non mais c'est clair.
Ouais.
Tourelle, c'était une équipe quasiment bis sur la première mi-temps. Écoute, il y a quelque chose qui, tu vois, si on doit chercher un tout petit, j'avais pas vraiment dit tout petit point noir dans le paysage idyllique des performances du PSG, c'est qu'entre le dernier match et ce match-là, tu te dis que ça vendange quand même pas mal. En première période, ils tirent 17 fois au but. Il y a une domination qui est quand même assez nette. Et puis, ça met du temps à faire sauter le verrou. Tu t'exposes en prenant ce but, dû à un mauvais alignement de ta défense. Défense un petit peu expérimentale, si j'ose dire, avec Meunier, Kurzawa, Kerrer et Marquinhos, qui n'a pas été totalement cette défense sereine. Mais au final, c'est un match qui est quand même, voilà, je dirais pas qu'il est maîtrisé, mais les 3 points sont là et le PSG continue sa domination outrageuse sur le championnat local.
Ça vendage pas mal, Jonathan, parce que t'as pas tes deux attaquants,
Cavani
la différence sur la moindre occasion Cavani et Neymar.
Ah mais donc, là ça mange beaucoup.
Oui, non mais ce que je veux dire par là c'est que on sait souvent que c'est ce premier but qui rassure l'animation offensive et là tant que tu marques pas ce premier but en fait les gestes sont différents et tu te poses toujours des questions.
Mbappé vendange pas mal même s'il marque.
Oui, mais bon, il se crée beaucoup d'occasions, il a 19 ans, il vendange mais il marque des buts. Tu sais quand on dit il vendange énormément et que chaque fois il nous sort un doublé, j'aimerais bien qu'il vendange souvent. Mais quand tu n'as pas un Cavani ou un Neymar qui ouvre le score, automatiquement, c'est quand même différent.
Et alors les gars, forcément, on va déjà se projeter sur ce 8e de finale retour de Ligue des Champions.
RMC, 8e de finale retour de Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Manchester United, J-4.
Julien Laurence nous a rejoint puisque ça concerne les Anglais, ça concerne Manchester United. On va évoquer avec toi également ce qui s'est passé cet après-midi en Angleterre. Beaucoup de choses à dire là aussi. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien.
On t'a passé un bon samedi toi aussi, non?
C'était cool, ouais. J'ai pas à me plaindre. Je dois avouer que j'ai pas à me plaindre.
Alors on va écouter Thomas Tuchel avant cela, les gars. Il a pas mal fait tourner donc avant ce match face à Manchester United. Alors il se projette déjà sur ce match face aux Red Devils en Ligue des Champions. Et il a évoqué le traumatisme de la remontada face au Barça dans l'approche psychologique qu'il faut avoir avant ce match de mercredi. Écoutez-le.
Toutes les choses sont bien. Nous avons confiance, on a gagné, mais c'est mi-temps et pour moi c'est très très important parce qu'il y a beaucoup de d'influence et il y a beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui disent oui, wow, mais pense de Barcelone et pense vous avez gagné 4-0 et après c'était 6-1 et il y a beaucoup de personnes qui disent non, vous avez 2-0 et il manque plusieurs joueurs comme Pogba, c'est sûr, parce que vous êtes fort à Parc des Princes et c'est absolument nécessaire pour mercredi de trouver notre milieu entre les deux, parce que c'est pas bien de jouer avec le peur. C'est peur. Et c'est pas bien de jouer avec trop de confiance.
C'est plutôt intéressant ce que dit Thomas Tuchel finalement. On vous pose la question également, supporter du PSG. Finalement, vous êtes comment avant ce match? Est-ce que vous avez toujours ce traumatisme de la remontada à l'esprit? Ou alors vous êtes confiant? Vous avez peur? Il y a un équilibre à trouver finalement. Je te vois faire l'amour un petit peu, Ali.
Oui, confiant, oui. Parce que t'as pas gagné 2-0 à domicile. Et tu vas à Manchester United, t'as gagné 2-0 à Manchester United.
T'as gagné 4-0 contre le Barça aussi, il y a quelques temps.
Oui, mais à domicile, tu gagnes 4-0 et tu vas au Barça. C'est totalement différent. Et en plus, c'est le Barça, c'est pas Manchester United. Et en plus, c'est pas le Manchester United qu'on connaissait, nous, dans les belles saisons où ils dominaient à domicile. C'était un rouleau compresseur. C'est totalement différent. Mais ça veut pas dire que le match retour, ça y est, c'est fait, c'est dans la poche, loin de là. Il va falloir aussi batailler pour montrer à Manchester United. Donc,
batailler, en ce moment, il va falloir avec être sérieux. Je pense que juste être sérieux,
et batailler quand
parce
même.
Que Manchester parce United, que quand tu vois leur performance, quand tu vois qu'encore Alexis Sanchez s'est pété cet après-midi,
alors, il dit
que l'équipe est quand même pas, voilà, c'est pas un foudre de guerre non plus.
Non, ça c'est sûr, je veux dire. Mais il faudra quand même montrer à Manchester United que t'es au-dessus d'eux parce que ça reste quand même un match de Champions League. Et dès que tu laisses un petit peu à l'adversaire le temps un peu de réfléchir et d'être bien, non. Ali, tu marques le premier but et tu l'es tu.
C'est ce que je disais par rapport au PSG, c'est que la différence entre cette saison et les saisons précédentes.
T'es plus costaud défensivement.
D'une part, ça t'as raison. Mais en plus, t'as pu te tester déjà très tôt dans la saison contre le Napoli, contre Liverpool.
Ouais.
T'as connu ce genre de match où fallait impérativement gagner, être sérieux. Donc là, t'es pas dans l'expectative, t'es pas dans l'inconnu. Tu arrives avec quand même des certitudes que tu n'avais pas les saisons précédentes.
Alors, Julien, qu'est-ce qu'on en dit en Angleterre justement de ce huitième de finale retour? On rappelle que United s'est imposé 3-2 face à Southampton cet après-midi. Ça a été douloureux quand même pour United.
Ouais, t'as raison. Dans la douleur, une performance collective assez décevante, j'ai trouvé dans l'ensemble. Ils sont menés au score puisque Southampton avec leur jeune arrière droit français, Yann Valéry, un nom qu'il faudra retenir d'ailleurs si vous connaissez pas encore ce joueur, un arrière droit qui est très très prometteur, qui est arrivé assez jeune de Rennes à Southampton et qui.
Ouais, et Julien, j'ai une question. Très bon cet après-midi, mais ça fait un moment qu'il joue.
Ça fait 3 mois depuis que Hasan Hüttl est arrivé à la place de. Qui est arrivé à la tête de Southampton, pardon, il joue beaucoup et c'est un très très bon jeune. Il fait encore des erreurs défensivement, il a encore pas mal de progrès à faire, mais il a vraiment un gros gros potentiel et je pense qu'il sera en équipe de France assez rapidement.
Mais on est comment à United? On est confiant avant ce huitième de finale ou pas?
C'est ce qu'on disait un petit peu hier soir, on se fait pas trop d'illusions, c'est surtout ça le truc. Bien sûr qu'ils iront au parc pour faire leur mieux, pour essayer de gagner, pour essayer de mettre la pression sur le PSG. S'ils marquent assez vite, tu pourras peut-être sentir un peu de tension au niveau des supporters au parc, sur le terrain aussi, voilà, c'est sûr. Après, Solskjaer fait que de dire, ce sera très dur mercredi, on sait que ce sera très dur, ils font que de répéter ça. T'as la moitié de l'équipe qui sera pas là, la moitié des titulaires en tout cas. Martial qui était pas dans le groupe aujourd'hui, est encore incertain, et même s'il revenait dans le groupe, est-ce qu'il serait d'entrée titulaire alors qu'il a pas joué depuis le match aller? C'est compliqué, ils savent très bien que ce sera compliqué. Après, à Manchester United, dans ton ADN, y a la victoire et chaque match est gagnable et chaque match t'y vas pour le gagner. Mais ils savent aussi très bien qu'il y avait un tel écart au match aller chez eux avec leur équipe type, qui sont pas, je pense, trop d'illusions. Et c'est vraiment le son de cloche que j'ai ressenti quand je suis allé, par exemple, dimanche dernier pour le match contre Liverpool. T'as vraiment l'impression qu'ils iront pas défaitistes, mais ils iront, voilà, en sachant que c'est vraiment quasiment mission impossible, quoi.
On a des news d'ailleurs d'Alexis Sanchez.
Pas encore, il est parti ce soir faire des examens.
C'est mort.
Une IRM pour le match. Pour le PSG, c'est mort. Après, je pensais que tu parlais pour.
Non, globalement, savoir comment il va, quoi. C'est ce qu'il y a.
Oui, non. Visiblement, ils ont peur que les ligaments soient touchés. Et quand tu penses, on en parlait hier. On avait une réunion avec avec les grands chefs de RMC pour le match, pour le match du PSG. On a parlé d'Alexis Sanchez. Et quand tu penses qu'il est arrivé il y a un an. Il a vraiment eu l'année la plus pourrie de l'histoire des années pourries de, que tu peux avoir. Là où il était quand il est parti d'Arsenal, l'un des meilleurs attaquants de Première Ligue, voire dans le top 3 des attaquants de Première Ligue. Et aujourd'hui, donc qui est devenu le joueur le mieux payé de l'histoire de la Première Ligue, hein, largement au-dessus de tout le monde d'ailleurs, à environ 550 000 euros par semaine.
Pas mal, hein.
Et qu'il ait offert si peu en un an à cette équipe de Manchester United, à ce club, et qu'il aujourd'hui soit blessé alors qu'il est revenu il n'y a pas si longtemps d'une nouvelle blessure musculaire, celle-là, c'est assez incroyable ce qui vient de lui arriver juste en l'espace d'un an. Et
Julien,
et c'est vrai que
ouais. Je vais te donner. Alors tu sais, avec le Chili, il continue d'être performant. Les fois où il s'est rendu en sélection. Même si là, il va pas pouvoir aller au prochain rassemblement. Et il y a des rumeurs qui disent que, enfin, apparemment, son souhait, c'est de faire encore la fin de la saison et la saison prochaine en Europe et de revenir sur le continent sous deux ans.
Ouais,
et en gros, il cache. En gros, je te le fais la vulgairement. Il cache tonne, il prend toute la thune qui peut se faire et il voudrait retourner à River Plate dans deux ans.
Ouais, mais sûrement. Mais après, moi, je pense qu'à un moment, quand tu gagnes autant d'argent, il y a quelque chose dans ton cerveau qui, tu vois, je sais pas.
Je pense que c'est un joueur.
Le talent est toujours là. Il y a pas de problème.
C'est un joueur.
Mais est-ce
comme,
que tu te fais aussi mal
Tu sais qui est là en Europe pour cachetonner, qui en a pas grand chose à faire du club dans lequel il joue et qui a juste envie de rentrer sur le continent.
Ouais, t'avais l'impression que Tevez, il s'en foutait des clubs où il jouait.
Ah bah carrément, il l'a dit lui-même.
Enfin, moi, je l'ai vu à Manchester
non,
City.
Pas, non. Moi aussi,
il défendait, il taclait. Pour quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, taclait que pour
vous
un attaquant.
Ce que veut dire Jonathan,
en Chine, peut-être.
Non, mais
en Chine,
ce que veut dire Jonathan, non, c'est pas qu'il fait pas le taf, c'est que le club,
exactement,
en soi, il s'en fout. D'ailleurs, il fait United et City. Mais attends, il pourrait jouer n'importe où, ça serait la même chose pour lui.
Mais attends,
et Tevez, il faut bien se rappeler de la fin de sa carrière. Il était à la Juve. La Juve voulait le garder. Il avait un très beau salaire. Au bout d'un moment, il a dit, j'ai eu atteint mon objectif en termes de ce que je pouvais me ramasser en termes de pognon en Europe. J'en ai plus rien à faire. Je rentre à Boca Juniors. Et Alexis Sanchez a le même discours. C'est tout ce que je dis.
Alors, excusez-moi. Déjà, troisième but de la Lazio, 3-0.
Pas okay, déjà là, tu dis rien, toi.
Il y avait un débat très intéressant sur un des joueurs
que tu as connu très bien.
Fais pas la comparaison avec Sanchez Tevez, s'il te plaît. Ce sont deux mondes différents. De deux joueurs différents.
Je te parle de mentalité, Simon, n'est pas de niveau.
Tevez, il est énorme.
C'est un tueur.
Oui, je te parle de mentalité. Je te parle de mentalité, Simon.
C'est un chapeau cadre.
Ça joue aussi le côté, qui
se défonçait. Il se défonçait.
Oui, mais ça veut, ce que
il jouait,
non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le prototype de joueurs sud-américains qui sont en Europe pour faire de l'argent, mais qui ont très hâte de rentrer de là où ils viennent, c'est-à-dire.
Mais la plupart, je l'attends.
Sur leur continent. Non, parce que t'en as qui restent. Mais il y a des joueurs qui ont envie de retourner jouer en ayant leur aptitude physique dans leur club entre guillemets de cœur. Tevez aurait pu faire encore 3-4 belles saisons en Europe. Il a décidé de rentrer dans son club de cœur à Boca Juniors. Alexis Sanchez a le même discours et tu verras que Kun Agüero dans un an ou deux
il
sera pareil. Il dira bah, je rentrerai indépendamment, peu importe ce qui se passe.
Lui il a dit à tout le monde Agüero. Il a signé son contrat jusqu'en 2021 je crois.
Et après il va
après c'est fini, je rentre à la maison.
Et Sanchez il a jamais dit tu vois. Le stade d'indépendamment.
Non mais attends, quand tu parles de Tevez, faut pas oublier d'où il vient, la vie qu'il a eue.
Et c'est pareil,
c'est toute la famille. Mais c'est ce qu'on dit.
Il avait pas de choses.
C'est toute une famille à nourrir, ils sont beaucoup plus, aussi bien Tevez.
On a le droit de gagner de l'oseille, voilà.
Exactement. Mais c'est pareil. Mais un contrat signé, une fois qu'il est signé, tu joues sur le tas.
C'est différent. Tevez a toujours été leader dans ses équipes.
Tout le temps.
Était important.
Sanchez, leader.
Les leaders.
Alors, tu te trompes à 10 000% parce que Carlos Tevez.
Alors,
je vais t'expliquer pourquoi.
Il était très important.
Laisse-moi t'expliquer pourquoi tu as tort.
Laisse-moi terminer parce que.
Partout où il a joué.
Tu as tort, en fait. À City, il a eu des gros soucis avec Mancini. À la Juventus, il était
impressionnant.
Mais en fait, tu as tort parce que tu confonds une chose. Tu confonds le comportement sur le terrain de Tevez qui, quoi qu'il arrive, à partir du moment où il met des crampons et il rentre sur une pelouse, il va se donner à 100%. Mais c'était pas un leader. En Angleterre, il a jamais appris à parler anglais. Il en avait rien à foutre. Il le disait lui-même.
C'est pas important, ça, de parler
c'est
anglais.
Pas important. Il parlait même pas à ses coéquipiers. Il le raconte. Il a donné une interview il y a 6 mois où il disait qu'il parlait même pas à ses coéquipiers en Angleterre.
Mais ça, c'est après.
C'est après, c'est vrai.
Sur le terrain. Un point. Tiens, c'est la mi-temps au Portugal entre le FC Porto et le Benfica. Classico portugais. Les deux premiers s'affrontent un partout. Porto, pour l'instant, est toujours leader avec un point d'avance. Le Classico en Espagne, Angel Watt, entre le Real et le Barça.
80e minute de jeu et breaking news, messieurs. Le Barça est très, très fort. Toujours 1-0 pour le Barça depuis la 26e minute de jeu. Et un petit ballon piqué de Rakitic par-dessus Thibaut Courtois. Le Real n'arrive pas à réagir. Tente, met des ballons dans la surface de réparation. Mais piqué, l'anglais, tous les défenseurs du Barça réussissent à chaque fois à dégager ce ballon. Le coup franc pour Modric et cette fois c'est Ter Stegen qui vient mettre les points. Le Real Madrid n'arrive pas à réagir et en contre même le Barça réussit à s'offrir des opportunités. 81 minutes de jeu, 0, un but partout, un but à 0 pardon plutôt pour le Barça.
Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu as de l'amour dans ton cœur et de l'argent dans ton manteau?
Yes I do.
Ça, tu fais une référence culturelle, musicale.
Eh bien sûr.
Tu m'en connais.
Eh bien sûr.
C'est obligé.
T'as lui aussi, il a de l'amour, il a beaucoup d'argent dans son portefeuille aussi. C'est Edouard G. 18e journée de Top 7.
Ah, j'ai eu 4.
Tu me disais que c'était le plus riche de la rédac en plus, c'est ça?
Non. Au niveau du cœur peut-être, mais au niveau du reste, il y a débat.
Il y a du jeu des jeux. Il est connu dans les Torres Lyonnaises.
Exactement. Il reste 7 minutes dans cette partie. Et avant d'aller dans les soirées lyonnaises, il va falloir finir cette rencontre. Et pour l'instant, c'est toujours mal engagé pour le Loup, mené de 5 points, 20-15. Le Loup qui essaye de se rapprocher, mais il y a une pénalité de Jonathan Wisniewski tout à l'heure, mais Rory Cocotte a répondu et a remis 5 points d'écart. On essaye du côté des hommes de Pierre Mignoni d'aller enfin marquer un essai dans cette partie, mais pour l'instant c'est mal engagé. Il reste 6 minutes, peut-être une action dans Jonathan Wisniewski qui va perdre le ballon et les Castrais qui vont pouvoir partir en contre. Et pour l'instant c'est Castres donc qui amène 20-15 et Castres qui ferait la très très bonne opération. Ce serait une 5e victoire consécutive pour les hommes de Christophe Urios et surtout ce serait la première défaite à domicile pour le Loup. Il reste 5 grosses minutes pour inverser cette tendance qui est pour l'instant aux ordres de Castres. 20-15 ici à Gerland.
On en est où là du Romain Simonet?
Bah, on est au festival final de carton, 3 jaunes sur une action, et là les rouges pour Kolarov, je sais pas si c'est rouge direct au deuxième jaune, mais l'impact avec Immobile a été très très lourd, et on dirait que quand manque quelques secondes, en minute, quelques secondes à la fin du temps additionnel, on avait 5 minutes de temps additionnel, c'est la victoire, c'est la fête de la Lazio qui bat 3-0 la Roma dans ses derbies, et au classement, ça va être un résultat qui va faire très très mal à la Roma et très bien à la Lazio qui reviennent vraiment dans la course pour la Ligue des Champions.
Allez, on revient dans quelques instants, supporters du PSG, on vous attend au 32-16, on sera avec Damien dans quelques instants. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous avez peur avant ce 8e de finale? Retour de Ligue des Champions, Thomas Tuchel s'est exprimé là-dessus, on vient de l'entendre. Et il y a quelques minutes, on vous attend avec Jonathan Macardi, Ali Benarbia et Julien Laurence. À tout de suite.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie d'Ali Benarbia, de Jonathan Macardi, Simone Rovera également est avec nous parce que ça joue en Italie. Ça vient de se terminer d'ailleurs entre la Lazio et la Roma. Derby romain, grosse claque subie par la Roma ce soir.
Énorme claque, ça va faire mal dans la semaine. Une match retour très compliqué et très important face au Porto en Ligue des Champions. On rappelle les scores 3-0. But de Caicedo après 12 minutes de jeu, après à la 70e, énorme occasion ratée par Pastore. 3 minutes plus tard, pénalty d'Immobile pour le 2-0. 89e minute, Cataldi 3-0. Et après, festival des cartons, 5 cartons sortis en 2 minutes, 2 pour Kolarov qui est exclu.
Simone, Pastore, ça ne va pas du tout à la Roma.
Pastore, je t'ai dit qu'il a joué quelque chose comme 40 minutes à partir d'octobre en Serie A. Il avait joué au max 26 minutes face à Sassuolo, c'était le 26 décembre, sa dernière entrée en jeu. Depuis l'explosion de Zaniolo, lui il trouve plus le temps
Et il est vu comment par les supporters là-bas?
On va y revenir dans quelques instants,
plus un gros flop sur ce grand flop.
On va y revenir dans quelques instants. Juste, on va aller faire un petit détour par Madrid, voir ce qui se passe entre le Real et le Barça, Angel Wata.
86e minute de jeu, toujours 1-0 pour le Barça. C'est un combat dans cette fin de match. Le Real qui tente de réagir, mais qui n'y arrive pas parce que il y a les coups qu'il faut, parce qu'il y a le pied qu'il faut, parce qu'il y a la technique qu'il faut pour sortir les ballons du côté du Barça, et que même ils sont maîtres de ce ballon depuis une dizaine de minutes. On a le sentiment vraiment qu'ils les ont éteints sur cette deuxième période. Ils vont même peut-être tenter de marquer le deuxième là avec ce ballon glissé à destination de Lionel Messi. Finalement, Thibaut Courtois, elle se saisit de la balle. 87e minute de jeu, 1-0 pour le Barça. Vidal, il fait une superbe entrée. Et il est dans le combat vraiment depuis qu'il est entré.
NG, est-ce que tu peux dire que tu es satisfait?
Yes, big satisfaction.
Ok, merci.
C'est ça que tu voulais?
Oui.
Cet après-midi,
tu vois, j'essaie quand même de te donner un petit peu de grain à moudre, quoi.
Oui, en plus, c'est très à propos, comme
j'ai vu que t'étais un peu seul, quoi.
Ouais, carrément, ouais. Ils savent pas de quoi on parle. Ouais.
Vous êtes surtout relou.
87 minutes de jeu, 1-0 pour le Barça.
Merci beaucoup, Angie. On vous rappelle que cet après-midi, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 face à Caen. Il est à J-4 du 8e de finale retour de Ligue des Champions. Damien, supporter du PSG, nous a appelé au 32-16. On a écouté Thomas Tuchel il y a quelques minutes et qui s'exprimait sur la façon d'aborder d'un point de vue psychologique et moral ce 8e de finale retour. Salut Damien.
Bonsoir Nico, bonsoir Jonathan et bonsoir Ali.
Salut Damien.
Alors est-ce que t'es confiant toi Damien? Julien Laurence aussi est avec nous depuis l'Angleterre.
Pourquoi ne pas être confiant? Tout simplement, ce serait dommage. On a fait quelque chose d'important, de gagner 2-0 à Manchester. On a souvent reproché justement au PSG la gestion de ces événements, la gestion émotionnelle de ces événements, d'être trop dans l'excès. Et c'est un peu le côté français, c'est-à-dire d'avoir trop peur ou d'être trop confiant, de se sentir gagnant tout de suite. Non, il faut être sérieux. Comme l'a dit Sylvain Jonathan, que ce soit hier ou aujourd'hui, Paris a eu des gros matchs cette saison à gérer émotionnellement, que ce soit à Naples, à Liverpool. Ils l'ont très bien fait. Pour moi, le point important, c'est la gestion de l'effectif de Thomas Tuchel. Je trouve que justement, il fait face à quelques blessures depuis quelques temps, c'est un peu normal, c'est la période, mais du coup il a su intégrer tous les joueurs dans sa rotation, il a su concentrer tous les joueurs, et il a fait par exemple entrer le petit Dagba la semaine dernière, enfin il y a 3 semaines à Manchester, et moi je trouve que le fait qu'il fasse jouer les jeunes, qu'il les implique, même s'ils n'ont pas forcément aujourd'hui au même niveau que les titulaires habituels.
Diaby pas mal cet après-midi.
Comment?
Le petit Diaby pas mal aussi cet après-midi.
Le petit Diaby très bon, hein. Mais enfin tous les jeunes du PSG, que ce soit Nkunku, Diaby, Dagba, tous les jeunes du PSG, pour moi ils ont le niveau pour jouer en Ligue 1. Et Laurent Blanc et Emery, moi je l'avais beaucoup reproché, notamment sur cette antenne d'RMC, qu'ils faisaient pas assez de tournées, qu'ils leur faisaient pas assez confiance dans les petits matchs de Ligue 1, qu'ils leur donnaient pas assez de temps de jeu. Et ben du coup, quand il y avait des blessés, ils se retrouvaient en match de Ligue des Champions sans trop de solutions, en mettant des joueurs pas à leur poste, en bricolant. Ben là non, toi, il fait ce qu'il a à faire, il reste dans son schéma de jeu, il reste dans son idée, tout le monde est impliqué et tout le monde joue le jeu. Et vous voyez, quand on sort les Mbappé, les Daniel Alves, tout ça, ben ils font pas la gueule. Ils font pas la gueule, ils sont contents.
Et Damien, par rapport à ce que tu dis, tu vois, je les trouve même plus satisfaisants que certains autres joueurs qui ont eu leur chance, notamment cet après-midi. Je pense à Meunier et Kurzawa, qui m'ont pas semblé très rassurants dans leur alignement et dans leur sûreté défensive.
Mais justement, ils montrent à Thomas Tuchel qui peut leur faire confiance. Et après, c'est à des joueurs comme Meunier et Kurzawa de montrer que eux aussi ils sont au niveau, et justement ça tire tout le groupe vers le haut, je trouve, et c'est plutôt bon signe.
Et tu sais, par rapport à ce que tu disais en début d'intervention, Damien, je pense qu'il y a quand même, on a quand même cette espèce de traumatisme, de spectre de la remontada, où forcément maintenant à chaque fois que le Paris Saint-Germain sera dans une confrontation aller-retour, on nous ressortira la vieille histoire. Alors que ça n'a pas forcément lieu d'être, parce que c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même coach.
Je vous coupe les gars, c'est terminé au rugby entre le Loup et Castres, Edouard G.
Et Castres revient au galop dans pour les phases finales avec une 6e victoire à l'extérieur, une 5e consécutive et une première défaite du Loup à la maison. 23 pour Castres, 15 pour le Loup. Castres qui a mené de bout en bout, qui a marqué un essai dès la première minute, qui a mis totalement à l'envers les hommes de Pierre Mignoni et qui ont eu tout faux dans cette partie. Il a toujours manqué le geste juste à l'instant T, et au final, eh bien Castres qui vient cueillir donc une très logique victoire ici à Gerland, 23 à
15.
Merci beaucoup Doudou, bonne soirée à toi.
Doudou, bonne soirée.
Ciao, bonne soirée. Ciao.
Les nuits lyonnaises t'attendent.
Allez, voilà. On y va.
Le loup t'attend. Bien entendu. Tiens, juste Julien, c'est vrai qu'on est en train de parler du Paris Saint-Germain là. Qu'est-ce qui fait croire aux Red Devils, aux Anglais, que Manchester United peut le faire face au Paris Saint-Germain justement? C'est vrai que Damien le dit finalement, il y a pas de raison de pas y croire, de pas être confiant pour le PSG.
On rigole ou quoi?
Ouais, c'est non mais comme je disais tout à l'heure, hein, pour les Anglais, pour les Mancuniens, ce sera vraiment très compliqué, limite mission impossible. Il faudrait que eux jouent déjà largement au-dessus de leur niveau. Ça veut dire qu'un Andreas Pereira, par exemple, que personne ne connaît en France, qui a marqué un très joli but aujourd'hui, mais qui est un très jeune joueur, qui a du talent certes, mais qui a très peu d'expérience, qui sera titulaire, puisque de toute façon il y a plus personne au milieu de terrain. Il faudra que lui évolue à un niveau intergalactique face au milieu du PSG. Il faudra que chaque joueur individuellement, mais aussi collectivement, soit largement au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire habituellement, et que de l'autre côté le PSG eux soient largement en dessous de ce qu'ils sont capables de faire et du niveau qu'ils ont affiché au match aller notamment, mais aussi généralement dans la compétition depuis le début de la saison.
Ça va
et
jouer
si les deux
milieu.
Là sont réunis, dans ce cas-là c'est possible, mais à part ça c'est impossible.
Julien, qui va jouer au milieu?
Je pense qu'il va faire jouer donc Andreas Pereira, dont je viens de vous parler, le jeune Scott McTominay qui est sorti lui aussi du centre de formation.
Moi je le trouve surcoté.
Et après le troisième dans le 4-3-3, ce sera Fred, je pense.
Qu'est-ce que t'en penses de McTominay, toi?
J'ai un peu de mal. Enfin, c'est un bon joueur.
On en fait des caisses.
Il est correct.
Non, mais les Britanniques en font des caisses avec lui.
Bah, il est obligé, ils sont obligés.
Non, ils en avaient fait un petit peu quand Mourinho était là, parce que c'est Mourinho qui avait un peu, Mourinho l'avait mis en avant en disant, voilà, mais regardez, tout le monde me dit, je fais jamais jouer les jeunes.
Il s'en est servi comme un outil dans sa lutte de pouvoir et de conflit avec Paul Pogba.
Tout à fait.
Oh, au milieu de terrain.
C'était juste un outil.
Alors, on va aborder les autres matchs. On remercie Damien, supporter du PSG qui nous a appelé.
Damien.
Il y avait un derby, le North London Derby également, cet après-midi. Tottenham Arsenal. Il y a eu un partout.
Ah, c'était bien.
Et un résultat qui finalement n'arrange personne, hein, Julien.
Ouais, c'est exactement ça. Même si je pense qu'avant le coup d'envoi, les supporters d'Arsenal, voire même les gens au club, auraient signé pour un match nul à Wembley contre Tottenham. Après, quand tu vois la physionomie de la rencontre, c'est vrai que ils ont beaucoup de regrets à avoir, les Gunners, forcément, après avoir raté un penalty dans les arrêts de jeu par Pierre-Emerick Aubameyang. Et même s'ils ont beaucoup défendu, on en parlait tout à l'heure dans l'émission d'avant avec Ludo Bragna, qui trouvait qu'ils avaient manqué d'ambition un petit peu, ces Gunners, et que le plan de jeu d'Unai Emery, en jouant très bas, en laissant le ballon à Tottenham, en subissant par choix d'abord le jeu, c'était peut-être pas la meilleure des solutions pour un match pareil contre une équipe qui venait de perdre ses deux derniers matchs de Première Ligue. On peut en parler pendant longtemps, mais c'est vrai que sur la physionomie du match, sur ce qui s'est passé, sur le but de Tottenham, le penalty d'Harry Kane, où Kane est hors jeu au départ, avant la faute de Mustafi, il n'y aurait jamais dû y avoir penalty. C'est vrai qu'ils ont des regrets, les Gunners. Danny Rose aurait dû être expulsé à un moment pour avoir essuyé ses crampons sur le torse de Bernd Leno. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce match, beaucoup d'incidents, et c'est vrai qu'au final, t'as raison, hein, ce match nul n'arrange personne parce que Tottenham voit revenir derrière Manchester United par exemple, et qu'Arsenal est toujours là, et que Chelsea peut aussi revenir demain, et que pour Arsenal, ils ont vu Manchester leur passer devant, et puis Chelsea aussi pourra revenir.
La grosse erreur, ça a été que Arsenal, dès qu'ils ont ouvert le score, après progressivement, ils ont laissé le ballon à Tottenham, ce qu'ils n'auraient jamais dû faire.
Il y a aussi eu un truc un peu bizarre, c'est la sortie de la Lacazette à l'heure de jeu. On rappelle qu'il sera suspendu face au Stade Rennais, Alexandre Lacazette. D'ailleurs, petite parenthèse, vous avez peut-être vu la queue qu'il y avait devant le Roazhon Park pour acheter les places pour ce match que vous suivrez jeudi à 18h55 sur RMC Sport. Le clapping qu'il y a eu devant le Roazhon Park, il y a eu 12 000 billets de vendus ce matin pour ce match 8e de finale aller d'Europa League. Cette sortie de la casette, elle est quand même hyper surprenante avant l'heure de jeu, Julien, aussi, hein.
Elle est surprenante. Alors, on ne sait pas s'il a pris un coup, peut-être qu'il était un petit peu touché parce qu'il n'avait pas l'air même avec la casse. Ce qu'on sait, c'est que quand il n'est pas content de sortir, il le montre en général. On l'a vu déjà cette saison, notamment en début de saison.
Là, il faisait un peu la gueule
souvent.
Quand même.
Oui, mais je sais pas. J'ai eu l'impression que
c'était prévu.
Voilà, ou en tout cas qu'il avait plus un problème physique que c'était un choix.
Exactement.
C'était un choix. Après, il vient de rater une énorme occasion, hein, là, avant de sortir. Vraiment une énorme occasion. Et peut-être que si, en plus, il n'était pas à 100% et que Emery a pensé que la vitesse de Aubameyang en compte, qui a d'ailleurs failli payer parce qu'il a eu quelques, jusqu'au penalty en tout cas, mais il a eu quelques opportunités. peut-être que tactiquement c'était aussi le choix d'Emery de les faire jouer comme ça, je sais pas. Moi j'aurais fait jouer les deux d'entrée, mais après Emery clairement avait d'autres idées,
surtout avec la mauvaise journée des Vision Sanchez qui a
sur le premier but, ouais, d'ailleurs le premier but, c'est signé la pénalty, casette,
hein. Ouais. Sur une journée comme ça, si tu avais deux attaquants qui lui mettaient en difficulté, ça aurait été mieux.
Non, mais
ça,
alors,
on peut pas savoir à l'avance la journée négative du défenseur adverse.
Tottenham qui est pas mal en championnat, se rappelle, ils ont gagné 3-0 face à Dortmund. Bah alors en championnat, ils restaient sur deux défaites, là en plus un nul. Alors ok, c'est le derby face à Arsenal, ça va pas fort, hein, pour Pochett en ce moment.
C'est un peu dur, ouais, c'est compliqué pour lui, parce que même aujourd'hui, même s'ils arrachent le point du match nul, même s'ils sont sauvés par Lloris, donc ils repoussent le penalty d'Aubameyang, et après Vertonghen qui fait un tacle pour empêcher Aubameyang de marquer sur le rebond du penalty. C'est vrai que c'était encore, moi j'ai trouvé par moments vraiment décevant dans le jeu. Ils avaient une telle énergie en début de saison, enfin sous Pochettino d'ailleurs, hein, une telle énergie, il y a beaucoup de mouvements, mais là les latéraux apportent quasiment rien. Devant, Son commence un peu à tirer la langue parce qu'il a beaucoup joué, il était parti à la Coupe d'Asie aussi avec son pays. Kane qui revient de blessure, est-ce qu'il est vraiment à 100%? J'en suis pas persuadé. Et c'est vrai que voilà, je trouve qu'ils ont un peu de mal en ce moment et qu'il va falloir vraiment faire attention pour eux, hein, pour la troisième ou quatrième place.
Et la doublette dans l'axe là, Sanchez et comment il s'appelle?
Alderweireld.
Ouais, celui qui joue devant lui, la numéro 6, c'est Waïda, non?
Ah, Wanyama.
Wanyama,
c'est son retour là.
Oui. Ouais, Wanyama, voilà, qui a très peu joué.
Je les ai rarement vus perdre autant de duels. Ils ont fait beaucoup de fautes, hein, dans ce match-là. Ils sont pas aussi bien.
Ouais, non, mais si vous voulez dire. Mais globalement, Pochettino, c'est en période comme ça. Sarri, ça fait deux mois qu'on les défonce pour tous ses choix tactiques, des jeux, des hommes. Emery l'a jamais convaincu, sauf pour les premières deux mois où c'était un peu la Emery mania. Solskjaer, oui, ça va dans les résultats, mais dans les jeux, non. C'est-à-dire derrière Liverpool, qui est là aussi un peu moins bien, et City, où Guardiola est intouchable, on dirait que ceux qui luttent pour la Ligue des Champions, c'est presque une lutte... comment dire, par défaut.
Tiens les gars, petite parenthèse, ça vient de se finir entre le Real et le Barça, Angel Wata.
Rakitic qui donne la victoire au Barça dans ce classico qui a été intense, notamment au niveau des coups donnés et des duels remportés en grande partie par le Barça dans cette partie. Je vous fais un point classement rapidement, 62 points pour le Barça après ce match, 50 pour l'Atlético de Madrid qui joue demain à la Real Sociedad, 48 pour le Real. Si le Barça a encore une chance de voir quelqu'un lui revenir dans le dos, ce sera certainement pas le Real Madrid.
Merci beaucoup, bonne soirée à toi.
Ciao, Angie.
On vous attend, hein, supporter du Real et du Barça à partir de 23h. On va revenir sur cette affiche comme sur les autres affiches, les autres chocs européens de ce samedi. Il y a toujours un partout entre le Benfica et le FC Porto, et on approche de l'heure de jeu. Julien, un mot également sur Manchester City et Liverpool. Alors City a gagné 1-0 à Bournemouth cet après-midi, mais sale nouvelle quand même pour Pep Guardiola, c'est la blessure de De Bruyne. Hein.
Ouais, la blessure de De Bruyne, c'est vrai, on en saura un peu plus aussi dans les prochaines heures sur la gravité ou pas de la blessure de Kevin De Bruyne, qui a eu, il faut quand même le dire, hein, un rôle intermittent cette saison, puisqu'il a beaucoup été blessé dès le début de la saison, quasiment dès il avait joué quelques minutes contre Arsenal le premier match, et il s'est blessé lors du deuxième, donc il a pas beaucoup joué, il a beaucoup manqué à cette équipe, et malgré ça, ils sont quand même voilà, là où ils sont aujourd'hui, donc c'est jamais bon de perdre Kevin De Bruyne, surtout si c'est pour longtemps, si c'est sérieux, mais c'est vrai qu'ils ont plutôt bien géré sans lui quand même pendant la saison. Le match d'aujourd'hui, c'est une démonstration d'aller à Bournemouth, qui est 12e du championnat, qu'on a passé 4 à Chelsea à domicile par exemple il y a pas si longtemps. Je vous lis simplement quelques stats de la rencontre d'aujourd'hui pour vous montrer à quel point cette équipe de City, même s'ils ont gagné que 1-0, a été assez exceptionnel. Et d'ailleurs Pep à la fin du match a dit: on a fait un match incroyable, 82% de possession de balle, 23 tirs, 7 cadrés, 14 corners, et de l'autre côté aucun corner pour Bournemouth, aucun tir cadré ou non cadré. C'était assez hallucinant, et c'est vrai que quand on voit une équipe de City jouer de cette façon là avec un Bernardo Silva notamment assez exceptionnel, ben tu te dis ça va être très compliqué. Enfin, il va falloir que Liverpool soit vraiment très fort pendant de demain dans le derby contre Everton jusqu'à la fin de la saison pour leur voler ou pour leur prendre, pour leur arracher le titre de champion.
Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous.
Salut Julien.
Merci, ciao. Les gars, bonne nuit.
Ciao, Julien. Ciao. Merci. On revient dans quelques instants sur les autres matchs de Ligue 1. On était sur le PSG Caen. On va parler quand même du match nul entre Angers et Monaco, du match nul également entre Reims et Amiens. Supporters de ces équipes, on vous attend en 32-16 avec Ali Benarbia, Jonathan Macardy et Simone Rovera qui reste avec nous.
Ok.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie d'Ali Benarbia, de Jonathan McCarty et Simone Rovera. En fait, je bafouille parce que c'est en direct, c'est en ce moment même. Le Benfica a été mené 1-0 à Porto, choc de la Liga portugaise. Le Benfica mène 2-1 face au FC Porto et prend la tête, ouais, et prend la tête du classement. Et d'ailleurs, on vous donne également un point du règlement qui est très important. Au Portugal, si égalité il y a 2 points à la fin de la saison, c'est la confrontation directe qui prédomine. Au match là, il y a eu 1-0 pour le Benfica. Et là, il y a encore 2-1 pour le Benfica à Porto pour l'instant. Voilà donc Porto qui est mené 2-1 chez lui. On sera avec Alex de Castro pour revenir sur le classico du foot portugais aussi. On vous rappelle que le Barça s'est imposé 1-0 au Real. C'est de la Liga espagnole, bien sûr. Et la Lazio a mis une fessée à la Rome ce soir. Simon est 3-0.
3-0 et la Lazio qui revient très avec beaucoup d'énergie dans la lutte pour la Ligue des Champions. Là.
Affiche de la 27e journée de Ligue 1, le PSG s'est imposé 2-1 à Caen cet après-midi. Il y a eu 2-2 entre Reims et Amiens. Et Monaco, qui était mené 2-0 face à Angers après un doublé de Flavien Tay, eh bien arraché le point du match nul 2-2 à Angers avec un doublé là aussi signé Radamel Falcao. Comment tu les as trouvés les Monégasques, Ali, ce soir?
Au début un petit peu apathique et surtout que des Angevins qui adorent bien sûr être regroupés et prendre en contre. Et le fait qu'ils ont été très efficaces, les Angevins, ça leur a permis un certain temps de croire qu'ils pouvaient vraiment profiter des moindres contre-attaques. Je pense que la différence, c'est qu'Angers n'a pas profité des contre-attaques pour mettre ce fameux troisième but. Et dès que Monaco est revenu en deuxième mi-temps et a marqué ce but, automatiquement le match a complètement changé. Et à la fin, ça aurait pu aussi bien du côté Angevin que Monégasque tourner. Mais ça, c'est ça la différence. Si c'est... allez... Fin d'année 2018, ce match, ben Monaco le perd facilement. Et puis là, avec ce renouveau, les blessés de retour, la concurrence, Jardim qui est revenu aux commandes avec vraiment un effectif au complet, ben c'est cette équipe est capable facilement de remonter de zéro, revenir et même d'aller chercher la victoire. Et là, c'est déjà bien qu'ils n'ont toujours pas perdu depuis que Jardim a récupéré l'équipe.
Jonathan.
Il a raison, Ali soulève un point qui est extrêmement important, c'est le fait que, bon, sur la première période, c'était pas génial ce qu'a proposé Monaco. Angers est fidèle à eux-mêmes, c'est-à-dire une équipe qui est très efficace, qui va très vite devant, qui a un jeu très direct, qui a beaucoup de personnalité, ça faut le noter. On aime ou on n'aime pas, mais c'est une équipe qui toujours, quand tu les vois jouer, tu les reconnais, tu reconnais un style. Mais ce match-là, c'est ça qu'il faut noter, c'est que, ben... Quand il y a 2 mois, tu perdais 2-0. Là, l'équipe, même si ça n'a pas été flamboyant dans le contenu, elle a fait preuve de caractère. Et c'est ça que j'ai envie de retenir ce soir. C'est le caractère de cette équipe monégasque qui est capable maintenant de les sortir de là où je pense et puis de revenir dans les matchs, même quand tout semble être contre elle.
Et par contre, la charnière centrale, il va falloir régler le problème. Parce que alors, Glick Badiachil, c'est pas de top. Naldo, on sait pas où il en est.
Il veut déjà partir, Naldo. Hein, il a expliqué dans la presse allemande cette semaine.
Ouais, c'est compréhensible.
Il veut déjà retourner en Allemagne.
C'était censé être un joueur important quand il est arrivé et sous prétexte qu'il a un carton rouge, d'un coup, Jardim ne le fait pas jouer.
Enfin, il n'y en a pas eu qu'un, hein, il y en a eu quelques-uns.
Oui, ça oui.
Mais franchement, tu l'as trouvé bon, toi.
Lui, mais Ali avec Jardim.
Comment?
Voilà, exactement.
Non, mais au-delà de ça, il n'a pas été bon, les gars. Il n'y a pas de...
C'est pas qu'il n'a pas été bon. Il faut lui laisser le temps aussi
d'accord.
Mais par contre, je ne conçois toujours pas ça, ce problème qu'ont la plupart des entraîneurs, sous prétexte que c'est pas eux qui ont fait venir un joueur, automatiquement, ils le calculent pas ou ils le mettent de côté. Ça arrive tellement souvent. Ou alors de nettoyer sous prétexte que l'ancien entraîneur comptait sur des relais sur le terrain et sous prétexte que le nouvel entraîneur, hop, non, je veux pas de ce relais. Non, c'est toujours un problème, ça, c'est pas bon.
Les clics, c'était une des hommes très importantes. Oui, même Jemerson. Monaco de Jardim, donc c'est normal, tu lui fais confiance.
Oui.
Donc c'est là, et plus vu comment il a savonné la planche de Thierry Henry pour que Jardim revienne, heureusement qu'il lui fait confiance quand même. Tiens, on va voir ce qui a été dit en conférence de presse avec Pierre-Yves Leroux qui nous a fait vivre d'ailleurs ce match entre Angers et Monaco ce soir. Salut Pile.
Bonsoir messieurs, vous écoutez attentivement, on s'est régalé pendant ce match. C'est vrai que ça a été vraiment
sympa.
Très très belle rencontre, vraiment très appréciable. Et c'est vrai qu'il y a eu deux physionomies avec cette première période où Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers, a s'est régalé parce que son équipe a vraiment très très bien joué. Mais ouais, comme il le disait, quand on affronte une équipe qui, si elle avait eu ce visage-là dès le début du championnat, jouerait la Champions League, serait dans les 3 premières. On n'a pas de regret finalement parce que en deuxième partie de match, ils ont vraiment été dominés. Donc c'est assez logique. Il avait juste une petite interrogation sur le pénalty en se disant la faute, elle commence quand même avant la surface de réparation. Mais après avoir revu les images, il ne crie pas au scandale. Et puis du côté de Jardim, il y avait cette petite frustration. Mais en même temps, il disait, quand on voit cette équipe d'Angers, on sait que quand on est mené 1-0, c'est déjà difficile de revenir. Alors à 2-0, il commençait à être inquiet. Et puis c'est vrai qu'il a poussé un petit coup de gueule à la mi-temps. Et ça a plutôt bien fonctionné en deuxième période où il a retrouvé son équipe, notamment avec un bon Falcao.
Ouais, ils étaient, alors, au final, ils étaient plutôt satisfaits, les deux coachs, c'est ça? Compte tenu de la, du scénar.
Ouais, c'est ça. Exactement. Finalement, vu les deux mi-temps, tout le monde trouve que le partage des points est plutôt acceptable et appréciable dans cette belle rencontre.
Merci Pile. Alors, t'as un truc à rajouter, non? Il s'est passé un truc de dingue ou pas?
Non, franchement, on a pris du plaisir dans un match de Ligue 1 et ça, c'est vraiment agréable.
Eh ben merci. Bonne soirée, Pierre-Yves.
Bonne soirée.
Merci à toi. Bonne soirée.
Tiens, un bon match. Hein.
Ouais, je vous donne le calendrier de Monaco parce que c'est plutôt pas mal. Hein. Ils ont un match à domicile face à Bordeaux. Alors d'ailleurs, ouais, peut-être avec Paulo Sousa, parce que l'accord a été trouvé. Reste à savoir quand il va être officialisé.
Ah, ça serait une bonne chose.
Voilà, il y a un accord entre Paulo Sousa.
Pas parce qu'il est portugais, parce que c'est un entraîneur que j'aime bien.
Bon, pour moi, ça, c'était surtout un joueur. Enfin,
non, c'était un joueur que j'aimais bien.
Ça, un charisme de dingue, ce mec.
Bah, franchement, une de mes villes préférées dans le monde, c'est Florence. Dès que j'ai un peu de temps, je vais à Florence et j'avais vu 3-4 matchs de la FIO, entraîné par Paulo Sousa. Alors, du point de vue des résultats, c'est vrai qu'il avait quand même une équipe en carton, au moment où il était. Il y avait Mohamed Salah, mais qui était pas Mohamed Salah. Il y avait vraiment pas des très bons joueurs, ils arrivaient à se qualifier pour l'Europe, et surtout, à chaque fois que t'allais au stade, s'il y avait quand même quelque chose, ça jouait bien.
Et après ça, il y aura un déplacement à Lille. Voilà. Là aussi, il y aura des Portugais.
Tiens. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant pour Monaco.
Dis donc, vous envahissez le championnat un peu, hein. C'est bien, là, mon pote, hein.
Après, on reste pas
après avoir négocié le transfert de Moussa Mahazou, t'as pris des sous avec Mahazou, là, tu, hein.
On reste pas forcément très souvent, longtemps, hein.
Jonathan.
À Jardine.
Il vient de Jardine. On peut à Jardine avec notre ami Mendes, c'est sûr que là,
que c'est pas Mendes qui le ramène à Monaco.
Non, je dis pas le contraire. La reconquistée. Reconquistada, c'est ça?
1, 2, 3.
Portugaise. Reconquistada. Reconquistada portugaise d'il y a très très longtemps et de retour. Et le football.
Enfin, c'est plutôt les Français qui ont essayé d'envahir le Portugal.
Oui, mais.
Napoléon, attention. Si tu écoutes.
On l'embrasse. On
accueille Cédric, supporter de l'ASM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Cédric.
Oui, bonsoir messieurs, ça va?
Salut Cédric.
Et toi alors?
Elle est contente Cédric.
Ah, peut-être pas d'ailleurs.
Content, il respire.
Oui, je respire. Je suis content parce que je suis à une soirée et puis ça se passe très bien. Bon, j'ai vu le match aussi sur mon téléphone.
Toi, tu vas choper ce soir. C'est ça?
Mais c'est un petit coup d'arrêt, ce petit match nul par rapport à l'avancée qu'on avait eue. Voilà, c'est bon. Deux fois on était mené au score, on est revenu, je suis content. Mais bon, j'aurais aimé une victoire et puis elle est pas là. Mais bon, c'est pas trop trop grave. Mais une petite déception qu'on n'ait pas la victoire.
Ouais, mais je pense que tu dis ça parce que je suppose que tu sous-estimes un petit peu cette équipe d'Angers, qui malgré son faux pas la semaine dernière contre Guingamp, qui revenait plus, tenait plus du hold-up, restait quand même sur trois victoires,
ouais, voilà, trois
d'affilée, et en étant très très convaincante à chaque fois que tu les voyais jouer sur le terrain. Donc je pense que c'est un résultat qui est pas non plus négatif.
Ouais, non, c'est pas négatif, mais après, c'est vrai qu'Angers, c'est mi-figue, mi-raisin, on sait pas trop ce que ça va donner.
Ah, c'est une belle équipe, on vient de, je te dis, Cédric, hein, vraiment.
Oui, mais c'est vrai que c'est mi-figue, mi-raisin aussi, c'est ça.
Ah, mais sur les 400 derniers matchs, oui. Ça va.
Ça tourne en leur faveur.
Ouais.
Exactement, bon, après, là, on était quand même mené deux fois au score, on revient. C'est aussi, j'ai cru qu'on allait pouvoir marquer le but de la victoire, c'est pas venu. Je suis content, mais voilà, j'aurais voulu qu'on entame une grosse série quand même. Une grosse série, et là, on a fait un petit match nul à l'extérieur, c'est bien, mais j'aurais voulu quand même qu'on...
C'est une grosse série, tu sais.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi.
Ils perdent pas, ils ont fait des victoires et des nuls. C'est-à-dire que pour monter, ça passe par des victoires et des nuls, et surtout ne pas perdre. C'est ce qui fait du bien psychologiquement à une équipe qui veut retrouver le ventre mou et sortir de la zone rouge. Faut pas oublier, parce que ça va vite, il y a longtemps, on parlait que de zone rouge. C'est pas sous prétexte que tu
sors de la même équipe. Exactement. C'est plus du tout la même équipe non plus. On peut pas comparer à ce qui s'est passé auparavant. On était en danger auparavant.
Mais même
là,
si,
on respire quand
même si
mieux.
C'est pas la même équipe, t'as bien vu que même encore dernièrement contre Nantes, alors que tu gagnes 1-0, les 20 dernières minutes, il y a panique totale. Donc,
ouais, c'est vrai.
Laissons cette équipe de Monaco déjà ne pas perdre des matchs, faire des victoires à domicile et des nuls à l'extérieur, juste pour retrouver un petit peu de bien-être.
On remercie Cédric, supporter de l'ASM. On accueille Stéphane, supporter du SCO d'Angers, qui est en direct avec nous.
C'est le Stéphane qu'on avait eu, le soir on avait eu Stéphane Moulin, on a dit Stéphane.
Ah, c'est le même, tu crois, c'est toi Stéphane?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Salut Stéphane.
Bonsoir
Salut Stéphane.
Voilà. C'est toi, le Stéphane, supporter du SCO.
Exactement. Bah écoutez, on a vu un beau match de football, on a vu deux belles équipes. Alors pour répondre aux supporters de Monaco, mi-figue, mi-raisin, surtout du côté du Léon à Angers, c'est pas mal du tout. Et donc, on a vu deux belles équipes, un beau match de football. Alors quand on a vu la composition de Monaco avec Golovin, Martins, Falcao, on s'est tous regardés dans les tribunes, on s'est dit, si on fait match nul, c'est pas mal. Et à la mi-temps, bon, écoutez, on avait de gros espoirs, mais je crois que Monaco, statistiquement parlant, est peut-être l'une des meilleures équipes du championnat de France en deuxième mi-temps. Je crois qu'ils gagnent beaucoup de matchs en deuxième mi-temps. Et donc, bah, après, on les a remis dans le match, mais on a vu un très bon match de football. Puis je suis très content pour Flavien T, parce que moi, il y a deux saisons de cela, petit cocorico, en début de saison, il était joker, il y a trois saisons de ça, il avait eu du mal, et le SCO a le mérite de faire progresser les joueurs, et il rentrait seulement en tant que joker en fin de match, les 20 dernières minutes, et j'avais dit sur cette antenne, je pense que ce joueur-là va exploser et va faire mal, et ça fait deux saisons qu'il le prouve.
Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, d'ailleurs, je l'avais mis dans mes trois points, moi, t'es.
C'est ce que je parlais. Ce style de joueur, il me fait penser un petit peu à Mouma dans ses débuts. Tu vois? Un joueur qui fixe énormément sur le côté droit, côté gauche, qui a une très bonne frappe. Et qui n'a pas peur de fixer même quand c'est deux défenseurs.
Même dans l'axe, il est bon,
hein. Et en général, dans des équipes comme Angers, tu sais, c'est pas du tout évident. Tu fais un contre un, tu passes. T'as tendance à donner le ballon. Lui, non. Et il a insisté, on l'a vu sur le premier but. Hein. Il insiste quand même. Trois fois, deux fois sur Glick, et la troisième fois, il a un contre et il finit l'action. Pour te dire que c'est une bonne chose.
Tu sais ce qui lui manque, je pense, pour briller encore plus? Ben, c'est un Toko Ekambi, quoi. Et Angers, il leur manque un vrai killer cette année.
Tu peux pas en avoir deux ou trois.
Non, je suis d'accord avec toi.
C'est ça le problème. Ouais. Tu mets le même tête, je veux dire, à Monaco, ça, je dis pas que ça sera beaucoup plus facile. Mais le fait que les défenseurs soient focalisés sur les autres, ça lui laisse beaucoup plus de champ libre pour faire la différence.
Bah, Okien fait le taf, mais c'est un autre profil, quoi.
Le problème, c'est deux au but.
C'est ça. Bahouken,
dans les dernières situations comparées à Toko Ekambi, qui était une arme impressionnante à Angers, c'est ce qui fait la différence dans les appels de balles, dans le jeu sans ballon, ce qui permet de libérer les espaces pour un tête.
Voilà. L'année dernière, il faisait beaucoup de passes décisives, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement.
Il gardait les ballons, deux buts, il pesait beaucoup sur la charnière adverse, c'est vraiment un bon joueur. C'est pas le même profil du tout.
On remercie en tout cas Cédric et Stéphane, supporters de Monaco et d'Angers, qui nous ont appelé au 32-16.
Ciao Stéphane.
Tiens, dans quelques minutes, sachez-le, on aura un invité côté Rémois. Reims, David Guillon, l'entraîneur de Reims, qui sera en direct avec nous. Génial. Reims qui a fait match nul 2-2 face à Amiens. Là aussi, scénar assez sexy finalement. Amiens qui menait 2-0 dans ce match. Et puis Reims qui a arraché le match nul. Reims qui est toujours invaincu en 2019.
Ouais. C'est beau. Et encore, ils ont une action, je sais pas si vous l'avez vu, là, pour le 3-2. Il veut tellement bien la placer qu'elle touche le poteau, parce que si juste il fait en sorte de la cadrer, ça faisait un très beau geste technique, ça aurait pu faire avoir la victoire.
C'est un très beau match entre deux bons entraîneurs de Ligue 1, Pélissier et Guillaume.
Et puis Reims, moi j'aime bien cette équipe de Reims.
Ouais,
ça joue.
C'est ça de la gueule.
Et puis avec le retour de Chavaria, ça fait énormément. Chavaria, t'as une très bonne équipe.
Non, bah allez-y.
Non, mais des fois, tu nous coupes, alors c'est pour ça, t'as un
temps. Non, c'est pour ça que t'avais quelque chose à nous dire. Non, écoute, le match était plaisant. Moi, je trouve qu'Amiens, depuis 4-5 matchs, ça va mieux. Depuis que Pélissier met sur le terrain toutes ses armes offensives. Reims, c'est une équipe qui est en pleine bourre. Alors, c'est pas forcément quand tu te mets devant la télé, tu dis, OK, on va regarder Amiens-Reims, tu te dis pas forcément que ça va être,
Et ça devient.
Et au final, ça a été un super match, et j'ai une grosse pensée. Encore une fois pour mon ami Jean-Marc de la Maison du Whisky, supporter numéro 1 d'Amiens, qui doit être très déçu de ce match nul.
Mais tu récupères des filets garnis, des trucs comme
ça. Non, mais tu sais ce que j'apprécie, c'est que c'est quelqu'un qui habite à Paris et qui quand même à chaque match à domicile et quand même à Amiens au stade de la Licorne pour supporter son équipe. Non, mais c'est quand même.
Il le fait, d'accord.
Voilà. C'est le foot vrai, c'est le vrai foot.
Il y en a qui se déplacent encore plus loin, je vais te dire. Moi, j'en connais.
On les salue aussi.
Ouais, exact.
On les salue aussi.
Mais c'est vrai que du coup avec ces résultats, la course au maintien, c'est un peu le statu quo, on va dire.
Pour Amiens, il y a que un petit peu Caen.
Il y a Caen qui commence à être un peu Caen, la situation est un peu précaire. Mais Amiens, ça va être compliqué, mais c'est jouable. Il y a une belle lutte quand même sur les.
Caen, ils sont 18e, donc barragistes. Ils ont 5 points de retard sur Amiens, qui est 17e.
Il va avoir
6 points de retard sur Monaco.
C'est un petit peu, ils sont un petit peu détachés, mais il va y avoir une très belle lutte, je pense, parce que dans les derniers matchs, quand on regarde un petit peu, je m'étais pris la tête à regarder les calendriers des uns et des autres. Je pense que ça peut être très serré jusqu'aux dernières journées.
Est-ce que le trou n'est pas en train de se créer avec ce duo là, Guingamp Caen? Un petit peu, et Dijon qui suit pas loin.
Est-ce qu'on sait que ça va se poser? Quand Dijon ont le même nombre de points, ils ont 20 points,
c'est pour ça que si Monaco,
Guingamp qui est dernier avec 18,
si Monaco engrange les points, Amiens s'enfuit un petit peu, j'ai juste peur que le trou commence à se faire, mais dès maintenant.
Faut regarder les calendriers. En tout cas, je pense que faut pas les enterrer non plus, parce que Monaco, je pense qu'ils sont
pour regarder
ça va aller
les dynamiques.
Parce que quand tu regardes ouais, c'est ça. Monaco, je pense que ça va aller, mais ça va se jouer entre Amiens, Caen, Dijon et Guingamp. Même si Amiens a quand même de l'avance en fonction des calendriers, de domicile, extérieur, quand tu regardes les joueurs qu'il y a, quand tu regardes les blessés, ça risque d'être compliqué pour ces quatre-là.
Les dynamiques d'Amiens, de Monaco en ce moment sont bonnes, alors que Dijon, Caen
et Guingamp
sont très mauvais, c'est peut-être pour ça.
Les gars, je vous rappelle les résultats en tout cas de cette 27e journée de Ligue 1, les résultats de ce samedi. Il y a eu donc 2-2 entre Reims et Amiens, 2-2 entre Angers et Monaco. Cet après-midi, le PSG s'est imposé 2-1 face à Caen. Tiens, résultat de Ligue 2 également cet après-midi. Orléans s'est imposé 3-1 à Lorient, match important.
Aïe, 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 qu'est-ce qui aurait pu se passer là?
Ouais, bah Orléans. Ouais.
Parce que...
Orléans c'est remontada. Hein,
non, mais qui s'impose à Lorient.
Ah ouais, 3.
Lorient qui joue la montée.
Ouais, ouais, exactement.
Ça, ça va être une catastrophe pour notre ami Landro.
Ce soir, le Barça s'est imposé 1-0 à Madrid. Ça joue au Portugal également. Il y a un classico. On est à la 66e minute de jeu. Le Benfica mène 2-1 sur la pelouse du FC Porto. Alors que Porto menait 1-0. Le Benfica, avec ce résultat, reprend la tête au classement et passe devant le FC Porto. On rappelle aussi la victoire 3-0 de la Lazio face à la Roma. Grosse claque mise par le Bayern 5-1 face à Gladbach.
C'est important.
On sera avec David Lorpolari. Le Bayern qui revient au tort de Dortmund au classement Bundesliga.
Égalité.
Voilà, Dortmund qui hier a perdu 2-1 à Augsbourg. L'after revient dans quelques instants avec David Guillon, l'entraîneur de Reims, qui a donc arraché le 2-2 face à Amiens ce soir et qui est invaincu en cette année 2019.
RMC Football Show, l'after foot.